Merci beaucoup, Daniel. Je ne savais pas du tout la façon dont on allait procéder ce soir. Donc, je n'ai pas écrit quelque chose dont je vais vous infliger la lecture. J'ai simplement essayé de lire le numéro, lire les textes que mes collègues, camarades et amis avaient écrits, dont on avait discuté ensemble avec Daniel aussi, bien sûr. Et je voulais donc commencer simplement par vous donner une première impression que j'ai eue à la lecture du numéro et de ce titre, l'esthétique tout simplement. Vous aurez compris que cette simplicité, elle est tout sauf le synonyme de quelque chose d'uniforme ou de monotone. Le numéro est, à mon sens, extrêmement divers, varié, dans son unité même. Et je voulais d'abord dire ma reconnaissance à Daniel, non seulement pour nous avoir proposé de contribuer à ce numéro, mais pour nous avoir effectivement, c'est comme ça en tout cas vraiment que je l'ai ressenti et que j'ai essayé de travailler, pour nous avoir laissé une liberté totale, sans chercher à fixer quelques lignes, quelques programmes ou quelques corpus de thèse que ce soit. Je voulais aussi dire combien j'avais été sensible à l'ouverture du numéro, au texte qui est signé collectivement par la rédaction des archives de philosophie et dont Laurent Gallois a rappelé la teneur dans ses mots d'ouverture. Dans ce texte liminaire, ce à quoi j'ai été, je pense, le plus sensible, c'est par la façon dont la formule a été déjà prononcée ce soir, je la cite ou je la récite, la façon dont les archives de philosophie ont lu ce numéro comme une façon d'installer ou de réinstaller, si besoin était, l'esthétique au cœur de la philosophie. C'est une conviction à laquelle, personnellement, je suis extrêmement attaché, à savoir que quelles que soient les recherches plus ou moins spécialisées que nous menons, nous n'avons pas la prétention d'occuper un terrain qui aurait des limites sur lesquelles il conviendrait de veiller jalousement. Je pense qu'il suffit de lire les articles du numéro pour s'apercevoir que l'esthétique pose des questions qui sont les questions qui occupent la métaphysique, la philosophie pratique, la philosophie sociale, la philosophie politique, bref, les questions philosophiques comme telles. Si j'essaye de dire un mot concernant la contribution que j'ai proposé d'apporter à ce numéro, ce sera plus qu'un mot, mais j'essaierai quand même d'être bref. Je voudrais peut-être expliquer pourquoi j'ai choisi donc d'intervenir sur un débat qui s'est posé à un certain moment donné entre deux auteurs sur lesquels j'avais eu l'occasion de travailler un petit peu. D'une part, Walter Benjamin, et d'autre part, Théodore Adorno. Deux amis, donc, qui ont entretenu une correspondance longue et parfois houleuse, dont on peut aujourd'hui lire les traces. J'ai apporté juste une image qu'on peut peut-être essayer de projeter pour donner un petit arrière-fond à ce que j'ai essayé d'écrire et qui est maintenant lisible, donc j'ai absolument pas l'ambition. Tu t'en occupes, Pauline, ou... Donc, le problème que j'ai essayé de travailler entre Benjamin et Adorno, c'est ce problème de ce qu'on a appelé dans la tradition l'autonomie esthétique. Donc, au départ, il s'agit d'enjeux qui sont des enjeux internes à la façon dont ces auteurs ont été lus et reçus. Et puisque nous sommes ici ce soir au Centre Sèvres, je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir longuement sur cet arrière-plan. Tous ceux qui connaissent le travail de Guy Petit-Demange savent à quel point Benjamin et Adorno ont été présents en ce lieu et ont été discutés. La question de l'autonomie qui surgit au milieu des années 30 entre Benjamin et Adorno dans des circonstances historiques dont je n'ai pas besoin de souligner à quel point elles ont une urgence non seulement idéologique mais une urgence politique très profonde. Cette question, elle a accompagné l'histoire de l'esthétique depuis ses origines et je vous ai apporté donc cette illustration qu'Isis von Plateau, qui est présente ce soir, aura évidemment reconnu. Ce buste de Junon ou Héra, selon que vous voulez parler latin ou grec, qui a profondément fasciné toute une tradition qui est d'abord une tradition goethéenne et schillerienne. Je vais juste, pour le plaisir, vous lire quelques lignes d'un texte très célèbre dans la tradition de notre esthétique, la fin de la 15e lettre sur l'éducation esthétique, où Schiller, après avoir énoncé cette thèse que chacun connaît, « L'homme ne joue que là où, dans la pleine acception du mot, il est homme, et il n'est tout à fait homme que là où il joue », cette célèbre déclaration sur la notion de jeu comme cœur finalement de la relation esthétique. À la fin de cette 15e lettre, Schiller ajoute quelques lignes qui évoquent le visage donc de cette déesse dont aujourd'hui les archéologues se demandent s'il s'agit véritablement d'une représentation de la déesse Junon ou s'il ne s'agit pas plutôt d'une représentation idéalisée de la mère de l'empereur Claude que le sculpteur à qui le sculpteur aurait voulu ainsi rendre hommage. Je vous lis donc quelques lignes de Schiller. Cette divinité aux traits de femme réclame notre adoration, cependant que la femme, semblable à la divinité, enflamme notre amour. Mais pendant que ravis, nous nous abandonnons à son charme céleste, sa suffisance céleste nous effraie. Toute sa personne se fonde en elle-même et y a sa demeure. Elle est un monde complètement fermé. Comme si elle était au-delà de l'espace, elle ne s'abandonne ni ne résiste. Il n'y a pas là de force qui serait en lutte avec d'autres forces, ni de défaut par où le temps pourrait faire irruption. Nous sommes irrésistiblement saisis et attirés par son charme, maintenus à distance par sa suffisance. Nous nous trouvons simultanément dans l'état de suprême repos et dans celui de suprême agitation. Il en résulte la merveilleuse émotion, pour laquelle l'intelligence n'a pas de concept, ni la langue de nom. Fin de citation. Vous aurez entendu dans ces lignes, dont je vous épargnerai un commentaire trop scolaire, mais vous aurez entendu dans ces lignes le jeu de balancement et d'équilibre que Schiller met en place sous la forme d'une évocation qui se veut une description, la clôture donc d'un visage qui se suffit à lui-même, un visage qui est donc autonome et qui, dans sa clôture même, dans sa fermeture sur lui-même, néanmoins, nous parle et s'ouvre vers nous. C'est au fond ce paradoxe que j'ai proposé d'appeler en succombant sans doute de façon un peu coupable aux séductions de l'assonance l'antinomie de l'autonomie. C'est cette espèce de double jeu de l'attirance et de la fermeture, de l'ouverture et de la fermeture, de l'attirance et de la proximité et de la distance, de l'appel et de la distance. C'est ce double jeu que j'ai voulu essayer de travailler dans le débat qui se noue entre Benjamin et Adorno. Vous connaissez les termes caricaturaux de ce débat, dans lequel on a fait jouer à Benjamin le rôle de celui qui aurait salué finalement la ruine de l'autonomie esthétique, les pratiques artistiques se mettant enfin au service de la Révolution. Benjamin pense à son ami Bertolt Brecht et au cinéaste soviétique dont il a pu voir quelques films en Allemagne puis à Paris. Tandis qu'Adorno serait campé dans la figure de celui qui se crispe sur une position où les artistes doivent se tenir à l'écart des masses et cultiver leurs expérimentations formelles pour aller toujours plus loin dans la radicalité de leurs recherches. Bon. J'ai présenté ce débat sous sa forme caricaturée. Tout le travail que j'ai essayé de faire dans l'article, chacun pourra juger si je suis parvenu à l'établir. Tout le travail que j'ai essayé de faire, c'était pour montrer que les positions entre Benjamin et Adorno étaient infiniment plus partagées, infiniment plus nuancées, et que le différent qui les oppose, le déchirement qui, à l'époque, les sépare, n'est pas un problème interne à la tradition des discours sur l'art, mais que c'est un problème qui reflète aussi les déchirements de la situation dans lesquels ces deux penseurs s'appuient l'un comme l'autre sur telle ou telle œuvre pour essayer de comprendre le présent dans lequel ils vivent, cette antinomie de l'autonomie, autrement dit, c'est une antinomie historique, sociale et politique, et je pense qu'elle travaille encore largement la création contemporaine.